Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous reprenons donc nos lectures en liberté et la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Personne ne pourrait jurer de ce qui passa par la tête de Thomas à ce moment précis. Selon toute vraisemblance, il crut que Gus voulait se battre avec son père, et il se précipita sur l'adversaire avec ses deux mains en avant qui cherchaient le coup pour étrangler. Il n'était plus tout jeune, mais encore sacrément costaud, en tout cas bien plus que Gus qui tomba à la renverse sous l'impact. Malgré l'énergie qu'il déployait, Gus n'arrivait pas à se dégager de l'étreinte. Abel se mit alors à tirer son fils en arrière par les épaules en lui criant de lâcher prise. Les mains se desserrèrent instantanément. Et Gus parvint enfin à reprendre sa respiration. Il se tâta machinalement la pomme d'Adam pour voir s'il n'y avait pas de dégâts, puis se releva et se précipita dehors sans un mot. Gus était rempli de terreur et de fièvre en arrivant chez lui. Il s'était retourné plusieurs fois en marchant pour voir si on ne le suivait pas, se demandant qui était le plus fou des deux hommes qu'il venait de quitter. Il pouvait admettre que l'arrivée de Thomas n'était pas une bonne nouvelle, mais ne comprenait pas qu'Abel ait pu lui demander de l'aide à faire une chose qu'il ne pouvait pas se partager ni même envisager. En vérité, si le Thomas était aussi violent qu'on le disait à l'institut où il était enfermé avant, Gus ne voyait pas comment Abel pourrait s'en tirer seul à long terme. En y réfléchissant bien, ce n'était pas si anormal qu'il ait pensé à lui en premier. Abel était perdu, ça oui, mais Gus savait que si jamais il acceptait de mettre un doigt dans l'engrenage, le bras tout entier allait suivre et qu'il ne serait plus temps de se dégager du piège. Le problème était que même s'il venait d'abandonner Abel dans sa ferme avec ce fils, sa vie allait changer. C'était le seul type avec qui il causait, le seul, qui pouvait casser sa solitude. Mais maintenant que le Thomas venait de débarquer d'une autre planète, il imaginait difficilement continuer à se pointer chez Abel à l'improviste pour boire un coup. Gus aurait toujours l'impression que l'autre ne serait pas loin prêt à lui sauter dessus et il n'y aurait personne pour lui sauver la mise. Ce qui se passait dans le cerveau de Gus semblait rudement compliqué à démêler, en tout cas pas aussi simple que de fermer une porte derrière soi avec dans l'idée de jamais la rouvrir. Qu'est-ce qui allait se passer s'il laissait Abel seul avec ce fils? Un jour ou l'autre, il baisserait la garde, Thomas le sentirait et s'en serait terminé d'Abel, trop vieux pour faire face. Est-ce que Gus pouvait accepter qu'un tel scénario se produise en gardant les bras croisés et en se retranchant chez lui comme l'écrevisse qui perçoit les mouvements suspects dans l'eau et se planque sous la berge en attendant que le danger soit écarté? La situation n'était décidément pas aussi simple qu'il l'avait cru sur le moment. Imaginant que le problème resterait sagement derrière lui pour toujours. Bon sang, se dit Gus, Abel c'était quand même pas n'importe qui. Il était temps de se refroidir la tête et de voir ce qui en sortirait. Gus se rendit dans la grange. Mars ne bougea pas quand il ouvrit la porte. Et pas non plus quand il lui demanda s'il voulait faire un tour. Gus s'approcha et passa une main sur la tête du chien, juste dans le creux qui se trouve entre les deux oreilles, faisant glisser ses doigts tout doucement dans les poils fins comme s'il s'agissait d'un peigne, puis appuyant de plus en plus fort avec le bout de ses ongles jusqu'à les enfoncer dans l'os du crâne. Gus réalisa alors que Mars ne bougerait jamais plus parce qu'il était mort. Il n'avait pas été là pour tenir son chien dans ses bras quand il était parti, comme il l'avait fait avec le faon blessé. Gus se mit à genoux et posa la tête de Mars sur ses cuisses, sans pouvoir se retenir de pleurer, ses bras pendant le long de son corps dans une posture simiesque, implorant un ciel de poutres emmaillotées de toiles d'araignées poussiéreuses de lui venir en aide. Il n'avait pas été foutu d'être présent quand Mars passait de l'autre côté. Il repensa au regard de son chien juste avant de le quitter pour se rendre chez Abel, qui lui demandait à coup sûr de rester auprès de lui. Les animaux savent à l'avance ces choses-là, paraît-il. Et Gus n'avait rien vu venir, ou n'avait pas voulu le voir. Avant de crever, l'animal avait vomi tout ce qu'il avait dans le ventre, une sorte de soupe crumeleuse faite de nouilles et de viande pas digérée, et de sang aussi. Gus ne voyait pas où Mars avait pu trouver autant à manger. Il trempa ses mains dans la bouillie et en repliant ses doigts, il sentit des petits morceaux qui s'accrochaient et s'incrustaient dans sa peau. Il balada ensuite un doigt dans le creux de sa main comme s'il comptait de la monnaie pour payer ses courses à l'épicerie. Sauf que ce n'étaient pas des pièces qu'il y avait dans sa paume, mais des petits éclats de verre pilés, coupant comme des lames de rasoir. Il n'y avait pas le moindre doute, quelqu'un avait empoisonné Mars avec des bouts de viande garnis de bris de verre, et le chien ne s'était pas méfié. Ça lui avait déchiré l'intérieur jusqu'à le faire crever dans d'atroces souffrances. Qui pouvait en vouloir à Gus au point de tuer son chien ? Mars n'était pas du genre à s'aventurer bien loin autour de la ferme sans son maître. Quelqu'un était venu au doge. Quelqu'un que Mars connaissait forcément. Il semblait ne pas y avoir beaucoup de personnes sur la liste répondant à ces deux critères, Abel ou son fils. La coïncidence était plus que troublante. Gus avait beau peser les faits, il n'arrivait pourtant pas à imaginer Abel en train de faire une chose pareille, et le Thomas encore moins capable de préparer un empoisonnement avec son cerveau de 5 ans, selon les dires de son propre père. Alors qui d'autre ? Et si après tout il ne fallait pas chercher plus loin la vérité ? Une machination destinée à délivrer Gus de l'affection qu'il avait pour Mars et le diriger vers une autre, toute trouvée. Ce genre de diversion, un plan qu'Abel était certainement en mesure d'échafauder. Gus sentit la colère monter en lui. Il fallait qu'il en ait le cœur net. Il abandonna Mars dans le foin. Il l'enterrerait à son retour, même s'il devait défoncer la terre gelée à coups de pioche et de baramine. Il referma la porte, pour ne pas qu'une sauvagine rapplique en sentant l'odeur de la charogne, puis il rentra dans la maison et décrocha son fusil de la poutre et le chargea avec des cartouches de chevrotine. Il aurait ainsi de quoi répondre si jamais il devait se défendre, après quoi il but 2 verres de gnôle cul sec et sortit. Lorsque Gus parvint devant la porte d'Abel, il n'y avait pas une seule ampoule allumée et pas un bruit à l'intérieur. La nuit était glaciale, mais Gus ne sentait pas le froid. Il entendait le vent qui se manifestait comme un serpent tournant autour de sa proie en sifflant pour impressionner. Quelques flocons gelés, aussi durs que du plomb, tourbillonnaient et se cognaient contre son visage, semblant pénétrer sous sa peau et voyager en dessous. La douleur était là, plus que jamais. Il se mit à frapper à la porte avec la crosse de son fusil en criant, et quelques secondes plus tard, une clé se mit à vadrouiller maladroitement dans la serrure et la porte s'ouvrit. « Mais t'es pas un peu taré de faire ce raffut en pleine nuit ?» dit Abel, en découvrant qu'il s'agissait de Gus. « C'est toi qui as empoisonné mon chien, hein, salopard, hein, c'est toi !»« Bah, qu'est-ce que tu racontes ? Mais t'es pas dans ton état normal, Gus. Réponds-moi. Tu vas commencer par te calmer et baisser ton fusil. Ma parole, ça devient une habitude chez toi de menacer les gens. » Ou alors c'est peut-être bien ton taré de fils qui a fait ça. Rentre, puisque t'es là. Tu vas enfin m'expliquer ce qui se passe. Abel se retourna, visiblement pas impressionné, et Gus le suivit à l'intérieur, en gardant son fusil en main. Abel devait être couché quand Gus avait tambouriné à la porte car il portait un pyjama en toile épaisse. Le Thomas était dans la cuisine, tout habillé, lui. Gus le fixa droit dans les yeux. Mais l'autre ne semblait pas avoir du tout peur de ce regard, ni de larmes. La situation avait même l'air de l'amuser. Gus se dit qu'il ne devait pas être au courant du genre de trou que pouvait faire un fusil, et ça ne le rassura guère. Il chassa cette pensée en se tournant vers Abel et en lui reposant la question à propos de son chien, rajoutant les détails sur la mort de Mars, le verre pilé et tout le reste. Abel tomba des nues face aux accusations. S'il fallait la comédie, il le faisait sacrément bien, pensa Gus. À ce moment-là, le Thomas se mit à produire des « ouah ouah » bien hébités, en se marrant comme un bossu. Abel lui dit de la fermer, mais l'autre continuait à se foutre manifestement de la gueule de Gus en passant son pouce sur sa gorge, comme s'il s'agissait d'une lame de couteau, continuant à rire de plus en plus fort et aboyant. Gus avait la sensation que ses tempes étaient prises dans un étau que quelqu'un serrait lentement. Abel s'approcha alors de son fils et lui balança une claque qui aurait mis Tyson KO. L'autre ne broncha pas. Il arrêta de rire tout net, se frotta la joue qui avait pris la gifle et regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de précis qui aurait dû se trouver à portée de sa main. Gus sentit que c'était le moment de partir vite fait, avant que les événements tournent au vinaigre, mais il ne bougea pas. Le Thomas s'avança vers la table, attrapa la bouteille vide qui traînait dessus et la balança en plein sur la tête d'Abel, qui se retrouva allongé par terre sans avoir le temps de réagir. Ensuite, le Thomas se dirigea vers Gus en aboyant et en tenant toujours la bouteille en main. Gus lui ordonna de reculer, pointant le canon de son fusil en direction de la poitrine de l'assaillant. Abel était toujours à terre et ne bougeait pas. Un filet de sang coulait le long de sa tempe droite, ressemblant à un ver de terre sortant de ses cheveux gris à la recherche d'un abri. Pendant que Gus regardait Abel du coin de l'œil, il ne perdait pas son fils de vue, qui continuait d'avancer sans crainte apparente.
Tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone. Nose pressed hard in frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone.
The days of Pearly Spencer.
Pearly, where's your milk-white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not won. You played the house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run.
The days of
almost run.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et donc, après l'habituelle pause musicale, nous revenons au roman de Frank Buis, Grossir le ciel. Tout se passa alors très vite. Gus voulut relever son fusil pour faire mine de tirer en l'air, mais au lieu de prendre peur et de reculer, Thomas empoigna les canons en les tirant vers lui et un coup de feu retentit. Gus crut que toute la maison explosait tellement la détonation résonna longtemps avant de trouver une sortie. Le Thomas tenait toujours l'extrémité du fusil, mais il n'aboyait plus et ne riait plus. Et il y avait de la surprise dans ses yeux grands ouverts, un truc qu'il n'avait pas prévu et qui venait pourtant de lui perforer la poitrine. Gus baissa les yeux à l'endroit où se terminaient les canons de son arme. Le gilet du Thomas était tout rouge. Juste au-dessus de son ventre, et du sang sortait à gros bouillons de la blessure, un sang nettement plus liquide que celui qui coulait de la tête d'Abel. Gus supposa qu'il existait plusieurs sortes de sang, ou bien que la constitution variait en fonction des humains. Puis, il vit le Thomas glisser et disparaître de son champ de vision comme un ballon qui se dégonfle en entraînant l'arme dans sa chute. Gus demeura longtemps immobile, à regarder les deux corps allongés devant lui. Quand il se ressaisit, du temps avait passé, des minutes qui avaient peut-être fait la différence entre la vie et la mort. Il s'approcha d'abord d'Abel en le secouant et en lui parlant. Le corps était mou comme une chiffe. En plus du coup porté par son propre fils, sa tête avait manifestement heurté violemment un des coins de la table, à en croire la petite tache de sang presque sèche maculant un des angles du plateau. Gus chercha le pouls sur son poignet, mais ne sentit aucun des à-coups que le sang fait quand il s'en va et revient, quand le cœur bat bien comme il faut dans sa cavité. Il tenta sa chance avec l'autre poignet, puis sur la gorge, en posant deux doigts autour de la pomme d'Adam de son vieux complice, sans plus de résultat. Il ne semblait pas y avoir grand doute. Abel était bel et bien mort. Pendant ce temps, le Thomas se tordait toujours de douleur en faisant des bruits bizarres. Il tentait encore d'aboyer sans y parvenir. Puis il arrêta de se tortiller d'un coup et se raidit, comme s'il venait de prendre une décharge de 380 volts. Des bulles de sang apparurent au coin de sa bouche et sa tête bascula sur le côté. Gus était dans l'incapacité de réagir. Ce qu'il savait en revanche, c'était que sa vie était foutue, et ce qu'il imaginait qu'elle allait devenir ne lui plaisait pas du tout. Il n'y avait maintenant plus un bruit dans la maison, à part le tic-tac de la pendule accrochée au-dessus du buffet de la cuisine, que Gus avait d'abord confondu avec les battements de son propre cœur. Il jeta des regards autour de lui. Tout était en place, à hauteur d'homme. C'était une sensation étrange que d'imaginer que rien ne s'était passé à ce niveau-là, rien de grave, rien d'irrémédiable. Il se dit que ça irait probablement mieux en fermant les yeux, que ça ferait tout disparaître, et même en sorte que ça n'ait jamais existé. Sauf que quand il rouvrit les yeux, il y avait toujours deux corps étendus sans vie, de gros copeaux de viande sanguinolents qui ne bougeaient plus et ne bougeraient plus jamais. Gus fit un effort désespéré pour se concentrer et réfléchir à la manière dont il pourrait se sortir au mieux de cette situation, mais aucune solution ne lui apparut. Alors il laissa tout en plan et rentra chez lui. Deux hommes étaient morts, et il en était en partie responsable. Pour
Pourtant, il ne ressentait pas vraiment de panique. Il avait plutôt l'impression honteuse d'avoir commis une grosse bêtise, sans aucune commune mesure avec la fin des deux vies. La seule chose qui lui importait en remontant le chemin du Brac, c'était d'enterrer Mars au milieu de la nuit. En arrivant au Doge, Gus alla chercher une pioche et une pelle dans la remise, et aussi une lampe électrique. Il marcha ensuite jusqu'au petit bois qui se situe derrière l'étable, là où les cèpes à tête noire poussent si bien en septembre. La lune était enfoncée dans le ciel, tel un bouton tout rond piqué sur un gilet de laine noire chiné. Gus sentait des reflux dans son ventre qui lançaient des signaux de détresse, comme si quelque chose se détendait à l'intérieur. Il dégrafa les boutons de sa braguette et se mit à pisser. En s'écoulant, l'urine faisait fondre la neige à la manière d'un acide avec le même bruit que fait l'huile quand elle crépite dans une poêle brûlante. Lorsque Gus en eut terminé, la sensation de réintégrer son corps l'envahit et il prit conscience que désormais rien ne pourrait contrarier cet état du monde. Il accrocha la lampe à une branche de bouleau, décapa la couche de neige sur quelques mètres carrés avec sa pelle. Il testa ensuite le sol avec le côté pointu de sa pioche à petits coups répétés pour trouver l'endroit le moins gelé, et se mit à creuser. Il peina sur une dizaine de centimètres, puis le tranchant s'enfonça facilement dans la croûte. Quand le trou fut suffisamment large et profond, Gus alla chercher Mars dans la grange. Le cadavre était devenu aussi raide qu'un madrier. Il le transporta dans ses bras jusqu'au bosquet et le fit glisser dans le trou. Mars dégringola tout au fond, et se retrouva coincé dans une position improbable dont il n'aurait jamais à se plaindre. Des dents pointues dépassaient de ses babines et brillaient, fabriquant presque un sourire dans sa bouche figée. Gus ne s'attarda pas sur cette vision et entreprit de recouvrir le cadavre de terre, tout en disant la seule prière dont il se souvenait en haletant, le Notre Père. Il tenta un « Je vous salue Marie », mais cala en plein milieu. Seule, la fin lui revint en mémoire. Maintenant et à l'heure de notre mort. Et il ajouta « Adieu camarade, tu vas sacrément me manquer ». Gus fut assailli par la peine devant la tombe rebouchée. Il tapota la terre fraîchement remuée avec le dos de la pelle. Il ne planta pas de croix dessus en pensant que nul dieu ne devait avoir de signification pour un chien, et inversement. Même s'il se souvenait avoir un jour entendu le pasteur dire à l'office qu'aucun oiseau ne peut tomber du ciel sans que Dieu ne le voie. Encore une sacrée belle connerie que personne de vivant n'était en mesure de contredire. Lorsque Gus se fut recueilli silencieusement au-dessus de la tombe, il entra dans sa maison. Il faisait un froid à fendre les pierres, mais il n'alluma pas pour autant le feu. L'idée de ne pas souffrir d'une manière ou d'une autre lui était insupportable. Il s'assit, en attendant le jour, pour retourner chez Abel, persuadé qu'on l'avait également dépossédé de ce choix-là. Le jour se levait. Gus s'était finalement endormi sur une chaise et sa tête reposait sur la table de la cuisine. Au réveil, il ne sentait plus ses pieds engourdis par le froid et l'humidité, étant donné qu'il n'avait pas pensé à poser ses souliers trempés depuis la veille. La situation s'améliora partiellement quand il se mit debout et commença à marcher dans la pièce à la manière d'un cheval faisant des gammes dans un manège. Il n'avait ni l'envie ni le temps de se changer. Il s'approcha de l'évier de la cuisine, ouvrit le robinet et s'envoya de l'eau sur le visage avec ses deux mains ouvertes. Le liquide glacé lui fit l'effet du vitriol, comme si sa peau était faite d'écailles en train de se décoller à chaque instant. Une fois dehors, Gus siffla Mars par habitude, mais l'animal ne vint pas se coller au basque de son maître, et la confrontation brutale avec la réalité accentua un peu plus son désarroi. Il lui semblait qu'il faisait moins froid. Il avait la sensation que sa tête butait contre les nuages tellement ils étaient bas et qu'ils essayaient d'expulser des petits flocons tout biscornus, des gros et des moins gros, allant se poser délicatement au sol sur la couche de neige déjà formée, sans que rien de vivant ne soit responsable de ce mouvement-là. Nous avons terminé pour aujourd'hui la lecture du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel. Nous reprendrons cette lecture demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.